солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour à tous, c'est Raphaël, vous écoutez le podcast Football Ski, voici le programme. Cette deuxième émission sera consacrée au début de la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Enfin, les choses sérieuses commencent et certains clubs français devront ferrailler face à des équipes venant de nos contrées. C'est pourquoi nous parlerons d'abord du RB Leipzig qui recevra l'AS Monaco mercredi soir, une équipe allemande qui a grimpé les échelons à une vitesse incroyable, et que nous tâcherons de vous présenter du mieux possible. Nous parlerons ensuite de l'Apollon Limassol, premier adversaire de Lyon en Ligue Europa. Certes, ce club ne fait pas vraiment figure de cadre européen, mais le déplacement des Lyonnais sur l'île de Chypre, jeudi, aura quand même tout du match piège. Commençons donc sans plus attendre avec notre premier sujet, consacré au RB Leipzig. Bon, que les choses soient claires, Football Ski ne propose pas d'article sur l'Allemagne en tant que telle. Nous ne traitons pas la Bundesliga de manière régulière. En revanche, nous nous intéressons aux clubs situés dans l'ancienne RDA, c'est-à-dire à l'est du rideau de fer pendant la guerre froide, et Leipzig en fait justement partie. Nous allons vous présenter cette équipe avec un membre de la rédaction à la fois germanophone et germanophile, Julien. Salut Julien!
Salut Raph!
Donc Julien, tu écris sur l'Allemagne de l'Est et tu as sorti l'année dernière une série d'articles intitulée Octobre Rouge, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est avec cette série qu'on a introduit l'Allemagne de l'Est sur Football Ski. Mais comme il n'y a pas vraiment de clubs qui sont en première division qui peuvent représenter la région au quotidien, c'est surtout une série qui se veut historique et un peu sociétale et donc plus ponctuelle que les autres pays football ski.
Donc c'était vraiment des articles historiques?
Voilà, c'est ça.
Très bien, et donc vous pouvez retrouver bien sûr cette série si ça vous intéresse sur notre site internet. Alors Julien, tu suis de très près la Bundesliga. Est-ce que tu t'attendais honnêtement à voir Leipzig terminer deuxième du championnat dès son arrivée parmi l'élite?
Pas du tout, pas du tout. Et honnêtement, je pense que personne en Allemagne ne s'attendait à voir Leipzig jouer la Coupe d'Europe un an après être monté. Après, c'est une équipe donc très jeune, on sait, qui a été créée en 2009 et qui a gravi les échelons assez rapidement. Donc, on savait qu'avec le budget qu'ils ont et l'encadrement, le staff, etc., que c'était une équipe très ambitieuse. Mais de là à terminer européenne la première année, c'est comme n'importe quel promu. En général, on s'attend à se stabiliser et on commence à rêver de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe dans les 3-4 années qui suivent. Mais là, ils ont dépassé tous les pronostics.
Oui, puisqu'il y avait Hoffenheim qui avait réussi un super départ il y a quelques années, il me semble. Mais par la suite, ils étaient un petit peu rentrés dans le rang. Tu pensais peut-être que ça allait se passer comme ça pour Leipzig aussi?
C'est ce qu'on s'attendait pour Leipzig, c'est ce qu'on s'attendait aussi pour Ingolstadt, qui était monté dans le même temps et qui ont des subsides de la part de l'entreprise Audi, donc les voitures automobiles de luxe, qui ont mis aussi pas mal de pognon sur la table. Mais bon, preuve en est qu'ils n'ont pas du tout connu le même destin, puisque Ingolstadt est redescendu la saison dernière avec Darmstadt.
Et sur quoi Leipzig s'est appuyé pour réaliser ce superbe parcours l'année dernière?
Tout d'abord, je dirais qu'ils se sont appuyés sur un effectif stable, puisque l'équipe qui a terminé deuxième de Bundesliga avait déjà, pour la plupart, pas mal connu la D2, voire la D3. Alors, il y a pas mal de joueurs comme Timo Werner ou Yusuf Paulsen, qui ont fait déjà partie de l'aventure avant et qui avaient pour la plupart un profil de joueur trop faible pour des équipes de Bundesliga, que ce soit Stuttgart ou que ce soit d'autres équipes de l'élite, et qui donc du coup ont tenté l'aventure Leipzig en D3 ou en D2 et se sont trouvés dans un environnement qui leur convenait beaucoup mieux et qui leur a permis de gravir les échelons pas à pas. Et au final, on s'est retrouvé avec une sorte de collectif d'anonymes, avec des espoirs étrangers, allemands, quelques internationaux, mais vraiment très peu. Et donc je dirais que c'est avant tout la victoire d'un collectif très stable.
Et malgré cette victoire du collectif, comme tu dis, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment crevé l'écran?
Bah, je dirais que oui, le premier c'est Timo Werner qui a été appelé chez les A en équipe d'Allemagne. C'est d'ailleurs en fait le premier joueur de Leipzig à avoir rejoint la Mannschaft. Sinon, il y a quand même eu un gardien assez solide, Peter Gulácsi, qui est hongrois. Il y a aussi eu évidemment Naby Keïta, le français qui a bien fait parler de lui, malheureusement, en mal ces derniers temps, puisqu'il a fait le forcing pour quitter Leipzig et aller à Liverpool. Sinon, il y a toujours le bon vieux Youssouf Poulsen, qui est là, je crois, depuis que l'équipe joue en Détroit, un international danois. Stéphanie Zanker, Marcel Zabitzer, et puis le Suédois Emil Forsberg, Billy Orban également. Donc voilà, c'est quelques noms qui n'étaient pas forcément les plus connus en arrivant en Bundesliga, mais qui avaient vraiment un statut d'espoir et qui se sont confirmés très vite par la suite.
Et bon, j'ai cru comprendre que ce club ne jouissait pas d'une très très bonne image auprès des supporters des autres formations. Bon, à défaut d'animosité, il y avait quand même au moins une certaine hostilité, sinon plus dans les tribunes. Pourquoi, au juste?
Alors, je pense que beaucoup se rappellent, c'est probablement cet épisode-là qui a vraiment révélé Leipzig et la rivalité qui existait déjà depuis très longtemps avec les autres équipes, mais à la face du monde, en tout cas de l'Europe. Alors, je sais qu'en France, on en a beaucoup parlé, ça a été ce fameux match contre Dortmund en janvier 2017. Pendant lequel donc c'était un déplacement du RB Leipzig à Dortmund, pendant qui s'est terminé par un caillassage général du parkage, des bus, des supporters dans la rue de la part des mecs de Dortmund qui, au passage, ont obtenu probablement la pire amende qu'ils pouvaient craindre, à savoir la fermeture de leur fameuse tribune pour un ou deux matchs. Le principal problème du RB Leipzig, c'est le fait de ne pas être passé par des années de galère avant de réussir. Donc c'est une équipe très jeune, des équipes jeunes, il y en a. Hoffenheim en est un exemple, Ingolstadt en est un exemple. Et puis de manière générale, toutes les équipes de l'ex-RDA en sont des exemples, puisque historiquement, elles ont toutes été créées après la création de la RDA, donc en 1949. Donc ce sont des équipes qui, par essence, ont moins de tradition, puisqu'il s'agit vraiment de tradition, c'est toujours le mot qui revient en Allemagne, que des clubs comme le Dortmund, comme le Bayern Munich, comme le Werder Bremen, comme Hambourg, comme Cologne. Ce qui est reproché en fait au RB Leipzig, c'est d'avoir très vite tout gagné après sa création. Certains parleront d'une certaine forme de jalousie de la part des supporters des équipes de tradition. D'autres dénonceront le caractère mercantile de cette équipe, puisque à sa création en 2009, Red Bull n'a pas investi moins de 100 millions d'euros avec l'objectif d'accéder à la Bundesliga en 8 ans, ce qu'ils ont réussi à faire en 7 ans. Donc c'est plutôt une sacrée performance. Mais l'argent n'explique pas tout, puisque malgré cette enveloppe faramineuse, il n'y a jamais eu de véritable grand nom, grande star du foot qui a rejoint cette équipe. Après, ce qui va chiffonner pas mal de supporters d'équipes de tradition en Allemagne, c'est justement, voilà, officiellement il s'appelle le Rasenballsport Leipzig, qui veut dire sport de ballon sur herbe, donc une sorte de montage administratif un peu foireux, parce que la législation allemande interdit aux équipes professionnelles de porter le nom d'une entreprise, sauf Bayer, mais c'est pour Leverkusen, mais ça c'est un autre débat. Et donc voilà, cette équipe de Leipzig est un produit de la société Red Bull qui sert à vendre des canettes de Red Bull dans un premier lieu. Mais avec le temps, force est de constater que c'est devenu une équipe qui est beaucoup plus qu'un produit publicitaire.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une petite rivalité par rapport au fait que c'est une équipe de la ex-RDA justement?
Les principaux rivaux de Leipzig, quoi qu'on en dise, sont tous en ex-RDA. Les principaux rivaux du RB Leipzig sont toutes les équipes de tradition qui ont joué dans l'ancien RDA. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis la réunification qu'une équipe de l'Est, mais alors de l'Est géographique, monte en Bundesliga sans avoir joué dans le championnat de l'ex-RDA. La dernière équipe de l'ex-RDA à avoir joué en Bundesliga, c'était l'Energie Cottbus, qui était descendu en D2 en 2009. Et 2009, comme par hasard, ça coïncide avec la création du RB Leipzig. Et à partir de là, on a eu une vague descendante pour Cottbus, qui joue aujourd'hui en D4 et qui a été confronté à énormément de graves problèmes de hooliganisme, cumulés à des résultats sportifs absolument désastreux. Face à Leipzig, qui est une équipe clean, stable financièrement, avec un public effectivement assez passif, gentil, mais qui a fait le chemin inverse et qui a fini par monter en Bundesliga en étant la première équipe de l'Est réunifiée. Et ça, c'est vraiment une première.
Et tu parlais justement du Red Bull qui détient donc Leipzig et aussi Salzbourg. Ça a failli créer des gros problèmes au niveau européen puisque les deux clubs pouvaient potentiellement jouer à la Ligue des Champions. Comment ils ont vu ça du côté de Leipzig, se dire que peut-être ils n'allaient pas pouvoir jouer cette compétition à cause de Salzbourg?
Je crois que les supporters n'ont jamais vraiment été inquiétés parce que c'est ce qui les définit le mieux, c'est ce côté paradoxal entre nous sommes supporters de l'équipe de notre ville qui est la ville de Leipzig, et d'un autre côté nous sommes reconnaissants vers Red Bull de nous avoir donné cette opportunité d'avoir un club de haut niveau qui joue dans une enceinte moderne et de recevoir des clubs de prestige comme le Bayern ou comme Dortmund. Mais d'un autre côté, on reste un peu critique envers Red Bull. On sait qu'ils sont assez malins et on sait qu'ils vont trouver une solution. Donc quelque part, je pense que quand la question s'est posée de savoir qui du Red Bull Salzbourg ou qui du RB Leipzig allait jouer l'Europe si les deux étaient qualifiés, les supporters, en tout cas à Leipzig, ne se sont pas vraiment inquiétés parce qu'ils savaient que Red Bull allait trouver une parade. En revanche, je pense que ceux qui ont vraiment dû s'en faire, c'était ceux de Salzbourg, parce que l'équipe perdait en niveau, en prestige, au profit de Leipzig, puisque forcément le championnat allemand est plus vendeur que le championnat autrichien. Et si le projet Red Bull en Allemagne fonctionnait, si pas mieux, en tout cas aussi bien que celui en Autriche, alors forcément ça allait être l'Allemagne qui allait prendre l'avantage.
Très bien, et pour en revenir un petit peu au terrain, est-ce que cette équipe s'est fait piller pendant le mercato estival?
Et bien bizarrement, non. Ils ont perdu un de leurs grands espoirs, David Eski, qui est parti au Hertha Berlin. Je ne sais pas si c'est un coup du destin, mais il s'est blessé en arrivant au Hertha, donc il va être indisponible pendant un moment. Mais sinon, ils ont réussi à garder leur principaux cadres. Donc Timo Werner est toujours là, Youssouf Paulsen est là, il est actuellement blessé, mais il ne devrait pas tarder à revenir, un peu comme Marcel Sabitzer. Emil Forsberg est toujours là, Dominik Kaiser, le milieu central, est toujours là. Mais sinon, voilà, ça reste une équipe qui a encore pas mal de ses joueurs cadres. Peter Gulacsi est toujours là, le capitaine Willy Orban, qui est encore assez jeune, il a 24 ans, est toujours là. Donc je pense que voilà, c'est une équipe relativement similaire à l'année dernière. Après, ils ont recruté Jean-Kévin Augustin, donc on connaît bien du côté de la capitale. Ils ont recruté aussi Kevin Campbell, l'international slovène du Bayer Leverkusen, qui sont des mecs d'expérience qui pourront apporter peut-être ce côté plus professionnel et de plus haut niveau que Leipzig n'avait pas jusqu'à maintenant. Et maintenant, reste à voir si cette équipe, donc basée sur la stabilité, arrivera à passer son baptême du feu en Europe, en sachant que l'entraîneur Ralf Hasenhüttl est un mec qui garde toujours la tête froide et qui n'a pas exigé d'avoir un mercato trop bling-bling, trop tape à l'œil pour recruter des gros noms histoire d'eux, mais au contraire, a gardé ses fondamentaux et a fait en sorte d'avoir une équipe qui, avec des joueurs qui se connaissent, plutôt que des gros noms qui feront absolument n'importe quoi ensemble.
Et est-ce que, selon toi, Leipzig a les armes pour battre Monaco sur ce match qui arrive?
Je pense, sans prendre de grands risques, qu'ils peuvent tenir le nul.
Donc tu aurais plutôt tendance à pronostiquer un match nul sur ce match aller, c'est-à-dire qu'il y aura lieu à Leipzig, hein?
Voilà. Monaco, j'avoue que, pour le coup, je pensais que... avec leur départ au mercato estival, on horaire, l'équipe un cran en moins, un cran en dessous que celle de l'année dernière. Mais après la victoire 6-1 contre Marseille, j'avoue que j'ai un peu reconsidéré la valeur de cette équipe pour la saison à venir. Le début de saison de Leipzig est correct, mais pas aussi exceptionnel que l'année dernière. Donc j'imagine que c'est une question d'automatisme à remettre en place. Mais si Leipzig gagne contre Monaco, je pense vraiment qu'on pourra parler de surprise.
Et continuons un petit peu à ce petit jeu des pronostics. Est-ce qu'ils peuvent pouvoir un petit peu plus loin en C1? On rappelle qu'ils sont dans un groupe assez homogène au final, avec Monaco, Porto et le Beşiktaş.
Alors pour ça, oui. Monaco devrait sans souci terminer en tête de son groupe, mais Leipzig a clairement les capacités de terminer deuxième. Quand ils ont fait jouer leur dernier match de la saison dernière contre le Bayern et qu'ils perdent sur le fil du rasoir, avec un but de Lewandowski dans les arrêts de jeu, on a parlé un peu de gâchis par rapport au fait qu'ils auraient pu adapter leur jeu pour bétonner cette victoire en vue contre le Bayern. Mais ça montre quand même quelque chose, c'est que c'est une équipe qui est capable de tenir 90 minutes contre un Cador. Et je pense honnêtement que quand tu tiens le nul jusqu'à la 90e contre le Bayern, tu ne devrais pas trop t'inquiéter contre Porto ou contre le Beşiktaş.
Pour en revenir à la scène nationale, est-ce que la saison dernière était juste un feu de paille ou est-ce une équipe selon toi qui à terme peut s'imposer dans la hiérarchie du football allemand et détrôner peut-être un jour le Bayern Munich?
Alors c'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on s'est aussi posée à l'époque avec Hoffenheim, donc qui pour rappel est parrainé par l'entreprise SAP. Leipzig a beaucoup 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 d'argent, clairement, puisque c'est Red Bull, mais ce qu'on voit peut-être moins que la saison de feu qu'ils ont fait l'année dernière en Bundesliga, c'est tous les investissements qui ont été réalisés par Red Bull dans la ville de Leipzig et dans la région. J'en veux pour preuve le meilleur exemple qui est la création d'un centre de formation qui a coûté 135 millions d'euros et qui correspond plus ou moins aux critères des meilleurs centres de formation européens. Plusieurs reportages qui sont disponibles en ligne, on fait une visite à l'intérieur et on voit effectivement le cadre dans lequel les U19, U17, même U15 évoluent. On est clairement à un niveau que même des équipes de tradition comme Schalke 04 ou le Werder de Brême, non pas, ou alors on met plutôt sur le déclin. Alors que Leipzig a vraiment investi, Red Bull a vraiment investi énormément d'argent pour créer une équipe de football à Leipzig, qui est une terre complètement propice pour qu'une équipe de haut niveau se développe en Bundesliga. Alors probablement qu'ils n'arriveront pas à réitérer leur performance de l'année dernière, en tout cas avec le niveau qu'ils ont eu en 2016. Par contre, s'ils arrivent à déjouer les pronostics, alors là, oui, sauf catastrophe gestionnaire, on devrait avoir un nouveau prétendant au titre aux côtés des grands que sont le Bayern, Dortmund. D'ailleurs, l'année dernière, au final, on n'a pas vraiment vu grand monde capable de concurrencer ces trois-là.
Oui, puisqu'au final, Leverkusen, Schalke ont vécu des saisons assez difficiles.
Leverkusen et Schalke ont vécu des saisons assez difficiles. Et chaque année, eux rêvent de jouer, évidemment, les places qualificatives pour la Ligue des Champions, qui sont celles dans lesquelles on les a connues pour quiconque suivait le foot des années 2000, début 2010. Maintenant, force est de constater que ce sont des équipes qui ont un niveau, en tout cas à l'intérieur de la Bundesliga, suffisant pour jouer l'Europa League.
Très bien, eh bien, c'est noté, nous terminerons sur ces mots. Merci beaucoup Julien pour tous ces renseignements, c'était très intéressant et à bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
Et enchaînons dès à présent avec notre deuxième sujet. Malgré leur statut de tête de série, les Lyonnais n'ont pas véritablement été gâtés par le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa. Si l'attention se concentre logiquement sur Everton, voire l'Atalanta Bergame, les Rodaniens devraient également se méfier de l'Apollon Limassol. L'OL se rend justement à Chypre ce jeudi soir pour y affronter cette équipe que va nous présenter Stéphane. Salut Stéphane!
Bonjour!
Alors Stéphane, tu es rédacteur occasionnel pour le site footballski.fr. Qu'est-ce qui te relie à Chypre concrètement?
C'est justement mes origines. Je suis d'origine chypriote et le fait que depuis quelques années je m'intéresse au football chypriote, au club chypriote et voilà.
Et tu parles régulièrement grec du coup?
Oui, je vais chaque été à Chypre et du coup j'ai la famille là-bas, donc je parle couramment le grec et je fais justement des articles sur football ski sur le championnat chypriote comme je connais assez bien et que je vais tous les étés à Chypre où je peux essayer de faire des interviews et contacter des gens sur place concernant le football chypriote.
Bon, très bien, on comprend que tu maîtrises bien le sujet. Et entrons dans le vif du sujet. Alors, on a un peu de mal à situer le niveau du football chypriote. Enfin, moi, à titre personnel, je ne connais pas de grandes stars chypriotes. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet?
Mais alors, tout d'abord, j'aimerais préciser que le championnat chypriote, il ne fait que de progresser d'année en année. Donc, même si c'est l'APOEL qui domine un peu le championnat chypriote, puisque cela fait l'année dernière, c'était la cinquième fois consécutive que l'APOEL remportait le championnat de Chypre. Mais il faut savoir que beaucoup de clubs luttent pour le titre. Par exemple, l'Omonia Nicosie, la North Sea Famagouche, l'Apollon Limassol, ou encore l'AEK Larnaca. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, l'AEK Larnaca avait fini deuxième à quelques points derrière l'APOEL. Donc, cela montre à quel point le haut tableau est plutôt homogène et plusieurs équipes peuvent prétendre à décrocher le titre.
Bon, tu nous dis donc que le championnat est en progrès et qu'en est-il de l'équipe nationale?
Mais l'équipe nationale chypriote est elle aussi en progression. Justement, il y a quelques jours contre la Bosnie-Herzégovine, ils avaient réussi à gagner 3-2. Donc, c'est quelque chose quand même d'important pour Chypre. Et c'est justement cet entraîneur Ben Simon qui a joué son premier match, qui a entraîné pour la première fois Chypre et qui s'est basé sur les jeunes chypriotes. On peut penser notamment à Grigoris Castanos, le jeune prodige chypriote qui était à la Juve il y a quelques années et qui est tout juste âgé de 18 ans. On peut avoir aussi le gardien Panagi ou Katelaris, le jeune défenseur de 19 ans de l'Omonia qui est actuel défenseur de Chypre. Donc c'est grâce à ces jeunes notamment que Chypre a, disons, un vent nouveau et qui a permis justement cette victoire contre la Bosnie-Herzégovine il y a quelques jours.
Pour en revenir au club, les seules fois où nous avons vraiment entendu parler des Chypriotes, c'est lorsque ceux-ci ont réalisé des exploits sur la scène européenne. Je pense par exemple à l'APOEL Nicosie qui a battu Lyon en huitième de Ligue des Champions en 2012, si ma mémoire est bonne. C'est bien ça?
En effet, ils avaient d'ailleurs un des seuls clubs chypriotes où les autres pays connaissent, puisque voilà, l'APOEL avait gagné contre Lyon et s'est qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale, où ils avaient affronté le Real Madrid, qui réaffronteront d'ailleurs cette année. Ensuite, ils avaient réussi encore à se qualifier en Europa League l'année dernière, par exemple, où ils avaient battu Bilbao et s'était qualifié en huitième de finale. Ensuite, il y a d'autres clubs qui essaient tant que bien que mal à se qualifier dans ces compétitions européennes. Il s'agit par exemple de l'Apollon Limassol, qui avait déjà joué en Europa League dans les phases de groupe en 2002, à deux fois de suite en 2014-2015 et 2015-2016. Donc voilà, c'est vraiment des clubs, c'est vraiment cette progression qu'a le football chypriote. C'est avec la preuve de ces clubs qui peuvent se qualifier dans ces phases de groupe de compétition européenne importantes. Par exemple, cette année, ce sont deux clubs chypriotes, comme on l'a dit, c'est l'APOEL Nicosie qui se qualifie en Ligue des Champions et l'Apollon Limassol qui se qualifie en Europa League.
Et l'Apollon Limassol, justement, là aussi, je tiens à préciser si ma mémoire est bonne, qui avait joué un sale tour au Niçois en 2013, en les
Voilà.
battant en barrage, oui.
Voilà, la saison 2013-2014, ils avaient. C'était dans les barrages. Ils avaient gagné le match aller chez eux 2-0, avec notamment un doublé de Gaston Sangoy, qui n'est cette année plus là à l'Apollon, même s'ils avaient perdu leur match retour 1-0. Mais voilà, l'Apollon s'est quand même qualifié. C'était notamment leur première qualification en groupe, en phase de groupe. Et malheureusement, dans les phases de groupe, ils n'avaient pas réussi à gagner. Ils avaient fini, si ma mémoire est bonne, troisième. Mais ça reste quand même un exploit pour Chypre et notamment et pour l'Apollon Limassol.
L'Apollon Limassol, dans la hiérarchie des clubs chypriotes, où est-ce qu'il se situe concrètement? Est-ce un mastodonte du championnat ou au contraire plutôt un jeune club en pleine ascension?
Non, ça reste quand même c'est un club qui progresse, donc ça reste quand même un bon club, un club historique pour Chypre. Depuis quelques années maintenant, le club est régulier. Il avait fini troisième l'an dernier et également lors de la saison 2015-2016. Donc il se situe dans le top 3, top 4 chypriote. Il a ces derniers temps une place vraiment importante dans le championnat chypriote, puisque l'année dernière, ce fut quand même le seul club chypriote à avoir battu l'Apoel, que ce soit en championnat ou en coupe ou en supercoupe. Donc, avec des statistiques, je peux vous dire, par exemple, la saison dernière, en 6 confrontations face à l'Apoel, l'Apollon a réussi à gagner 4 fois et a fait 2 matchs nuls. Donc, ça montre vraiment cette importance, cette égalité avec l'Apoel Nicosie qui est maintenant en face au groupe de Ligue des Champions. Et je voudrais également noter que l'Apollon Limassol a gagné 2 fois de suite, donc cette année et l'année dernière, la Coupe de Chypre et la Supercoupe.
D'accord, donc l'année dernière, si je comprends bien, ils ont fini 3e du championnat et ils ont également gagné la Coupe de Chypre et la Supercoupe, c'est ça?
La Supercoupe cet été, oui, contre l'Apoel justement.
Très bien, et parlons maintenant de terrain. Quels sont les points forts et les points faibles de l'Apollon?
Mais concernant les points forts, je dirais que c'est le secteur offensif qui est plutôt très efficace. Ils avaient notamment fini l'année dernière comme une des meilleures attaques de Chypre. Dans le secteur offensif, on peut retrouver le joueur maltais, international maltais Kembri, qui vient d'arriver justement cet été et qui est déjà auteur de 5 buts en 6 matchs de qualification. D'autres joueurs comme Zelaya ou Maglica peuvent contribuer à ce secteur offensif. Et surtout, il ne faut pas oublier le Fotis Papoulis, le joueur grec, qui est revenu de blessure, qui est un habitué de l'Apollon, parce que notamment il avait déjà joué contre Nice il y a quelques années. Donc ce sont ce secteur offensif qui peut créer la différence offensivement. Après, c'est sûr, ce n'est pas il y a une grande différence entre la défense d'un club chypriote et la défense de Lyon, par exemple. Donc, forcément, ce secteur offensif va être efficace, mais pas autant face au club européen. Mais ça reste quand même leur point fort. Et ensuite, je pourrais dire comme point faible, c'est le fait que leur défense encaisse quand même beaucoup de buts. Mais toujours, par exemple, on peut dire voilà, que ces 6 derniers matchs de qualification cet été, ils ont quand même encaissé 5 buts. Surtout à domicile, on peut penser au match de l'Apollon contre Aberdeen, le club écossais, où ils avaient gagné 3-2, mais ils ont quand même encaissé 2 buts chez eux. Et on pourrait aussi également dire, comme point faible, que sur les 11 joueurs type, 11 de départ type, 5 sont des nouveaux arrivants. Donc bon, cela peut être positif, mais également négatif dans le cas où ils se connaissent peu. Et du coup, c'était plus un point faible, le fait qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils aient un manque d'entraînement ensemble, et donc qui est propice au fait qu'ils encaissent beaucoup de buts.
Bon, tu nous as cité plusieurs noms de joueurs. Est-ce qu'il y en a un qu'il faut surveiller plus particulièrement quand même?
Il y en a plusieurs. Après, cela dépend. C'est par exemple Skembri que je parlais auparavant. C'est Skembri, il est déjà connu du championnat chypriote, puisqu'elle a fait un passage à l'Omonia Nicosie il y a quelques années, où il avait fini plusieurs fois meilleur buteur du club. Donc Skembri, c'est cette année, cet été plutôt, auteur de 4 buts en 6 matchs. Et on peut également citer Maglica, qui est en pointe, qui devrait être en pointe contre Lyon, on n'est pas encore sûr, qui a beaucoup de vitesse. Mais également Ioannis Pitas, qui est âgé de 21 ans, un jeune joueur qui est remplaçant, mais que entrer en jeu, il peut vraiment créer des problèmes aux défenses adverses.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance dans les stades chypriotes? On sait que c'est souvent très chaud en Grèce. Est-ce également le cas du côté de Chypre?
Également, c'est également du côté de Chypre, puisque c'est les grands clubs. Disons que ce sont les grands clubs chypriotes qui ont beaucoup de supporters. On peut connaître avec l'Apollon Nicosie. Bon, ça reste pas niveau, c'est pas tellement comparable avec les supporters de l'Apollon Nicosie, mais ça reste quand même une bonne ambiance. Leur groupe de supporters s'appelle la Gate 1, où ils ont beaucoup d'ultras, Donc c'est assez bonne ambiance avec des tifos, des chants. Donc cela peut influencer leurs joueurs positivement. Concernant leur stade, voilà, ils évoluent au stade de Sirio, qui est au centre de Limassol, qui a une capacité de 13 000 places. Mais il faut savoir que lors de ces matchs de groupe contre Everton, contre Lyon et contre
Bergame.
Voilà, contre Bergame, justement. Ils joueront au stade de GSP à Nicosie, puisque leur stade Sirio Stadium n'est pas conforme à l'UEFA, aux règles de l'UEFA, pardon. Et donc, ils devront jouer à Nicosie à une cinquantaine de kilomètres, donc à Nicosie, pour leur match à domicile.
Et tu penses que ça va changer quelque chose, que les supporters vont pas avoir envie d'y aller, ou il va quand même y avoir un engouement autour de cette équipe?
Non, je crois qu'il y aura un engouement parce que, voilà, l'Apollon Limassol est quand même un club très, voilà, beaucoup de supporters dans tout Chypre. Donc, il y a beaucoup de supporters de l'Apollon à Nicosie. Et même, vraiment, pour de tels matchs, les supporters de l'Apollon qui sont à Limassol, comme la plupart, feront le déplacement. Et d'ailleurs, j'ai pu voir un article de la presse chypriote hier qui montrait un nombre important de supporters dans le siège du club et dans la boutique officielle de l'Apollon Limassol. Ils sont en masse pour acheter les billets d'Europa League. Du coup, sans souci, je crois bien que le stade sera bien rempli et qu'il y aura une belle ambiance.
Au final, à quel match t'attends-tu entre l'Apollon et Lyon?
À domicile, tout d'abord, comme c'est dans quelques jours, je crois que l'Apollon va garder cette tactique, va jouer plutôt défensivement, mais va se créer quand même, je pense qu'il va se créer quand même quelques occasions, en contre notamment, parce qu'ils ont vraiment des bons joueurs, ou encore en milieu, puisque cette tactique, elle est propice justement au milieu de terrain, aux joueurs du milieu de terrain, qui vont garder la balle et qui vont essayer, tant bien que mal, étouffer les joueurs lyonnais, même si ça paraît compliqué. Donc voilà, je crois bien quand même que ça va être un match vivant, même si voilà, ça va être plus être projeté vers la défense, vers une équipe plutôt solide, compacte, vers l'arrière, pour essayer de contenir ces attaques lyonnaises.
Et tu penses que l'Apollon peut accrocher le match nul, voire s'imposer à domicile?
Mais face déjà à l'ambiance, je pense que voilà, ils peuvent aussi avec une bonne défense malgré qu'ils encaissent beaucoup de buts, ils peuvent quand même créer la surprise, pourquoi pas. Et avec cette défense qu'ils ont, voilà, ils peuvent quand même gagner. Ça va être compliqué, même s'ils peuvent en procédant des rencontres ou même avec ils ont les joueurs pour marquer. Mais voilà, je pense que un match nul, voilà, ce serait possible, pourquoi pas.
D'accord, c'est sur cette analyse que nous allons clore le sujet. Bon, pour ceux que cela intéresse, sachez que Stéphane vous a préparé un article qui paraîtra très prochainement sur notre site. Stéphane, je n'ai plus qu'à te remercier pour tous ces éclairages et à te dire à très bientôt.
À très bientôt, merci.
C'est la fin de ce deuxième podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et, comme on dit au pays du redoutable Robert Keck, de vos femmes.